Et au programme de ce mardi 13 octobre, un long discours vaut-il toujours mieux qu'une bonne photo? C'est la question que nous poserons à 18h20 dans Du Grain à Moudre. Deux images ont marqué l'actualité depuis la rentrée, celle d'un petit garçon syrien mort noyé en essayant de rejoindre l'Europe et celle de deux cadres d'Air France cherchant à échapper à leurs poursuivants. Des photos tellement fortes qu'elles finissent par réduire la compréhension de ce qu'elles sont censées décrire. Nous en discuterons avec André Gunther, Marie-Pierre Subtil et Eric Barada. À 18h, le journal de la rédaction présenté par Tarach Legel qui évoquera cette nouvelle journée meurtrière en Israël. Il y a eu deux attentats à Jérusalem. 17h55, les carnets de l'économie de Vincent Lemaire. Il est en compagnie de deux journalistes cette semaine, Sandrine Cassini et Philippe Escande, pour évoquer l'économie à l'âge du numérique. Et puis tout de suite sur les docs. Bonjour Irène, rebonjour.
Rebonjour Hervé Gardette.
Les voleurs cette semaine.
Et oui, sur les docks évoués aux voleurs, aux voyous et autres gangsters en prélude au week-end prochain qui verra France Culture faire un détour par Chicago. Mais tout de suite, nous restons en France. Après le portrait hier de Michel Lepage, Alain Cailliol et Claude Lucas, Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre se sont intéressés à ce qui permettait de tenir derrière les barreaux après avoir entendu les mots « condamnation en dizaines d'années » ou « perpétuité ».
Alors bien sûr, il y a les parents, les amis, mais j'imagine également les femmes.
Oui Hervé, quand on connaît le parcours de documentariste de Michel Pomaret, fortement fasciné par la gémellité, je ne vous étonnerai pas en ajoutant qu'aux femmes et concubines s'ajoute aussi une sœur, grandie dans l'ombre d'un frère qui braquait. Tout de suite, elles sont trois à témoigner. Parloir, maison d'arrêt, mitard, centrale, voyage, parfois durant 30 ans, mais aussi résistance à l'incompréhension de ceux qui vivent en liberté et amour indéfectible.
J'ai épousé un détenu professionnel, un homme intelligent, courtois, soigné, mais un voyou. Cet homme, je l'ai aimé dès notre première rencontre et je continue à l'aimer comme au premier jour. Il a toujours été l'homme de ma vie, une vie que j'ai délibérément choisie. Lorsque j'ai épousé Philippe, il était déjà en prison. Notre vie de couple n'est pas banale. Parloir, liberté conditionnelle, arrestation, parloir, procès, parloir, cavale, arrestation, parloir, procès, parloir, cavale, arrestation, procès, parloir, parloir, parloir. Oui, c'est...
Le rire de Martine Sauvadet El-Shenaoui.
Oui, c'est la vie, j'ai toujours... voilà, c'est mon rire, on va dire comme ça, mais j'ai toujours rigolé comme ça. Voilà, j'ai eu un parcours assez... pas commun, disons. Et puis, c'était mon rêve, c'était voilà, simplement aller chercher une baguette avec mon mari, aller me mettre à la terrasse d'un café, boire un café. Donc, c'est vrai que c'était pas des choses très exigeantes, mais des choses normales, quoi. Parce que partir en vacances seul, faire des choses seul, bon, au bout d'un moment, c'est frustrant. C'est. Voilà, c'est. Bon, je savais que dans le coin de ma tête, je pense à lui, il pense à moi, mais bon, concrètement, j'étais toute seule, quoi. Enfin, bien sûr, j'avais mes enfants, mais. Point de vue femme, j'avais pas mon conjoint, quoi.
Voleur, voyou. Des femmes, les âmes sœurs. Michel Pomaret, Jean-Philippe Navarre. Pauline Sulac, pour commencer l'histoire, si on commençait par les dates de naissance, la vôtre et celle de Bruno.
Alors Bruno est né le 6 novembre 1955 et je suis née le 14 novembre 1956, c'est-à-dire quasiment au même moment, un an plus tard. On se connaissait tellement bien, on était tellement capable d'être l'aiguillon qui de temps en temps permet à l'autre de devenir un peu mieux, qu'on pensait que c'était indestructible, quoi, que c'était pour la vie. Et quels que soient nos maris ou femmes et nos enfants, cette proximité... créer quelque chose. Je crois qu'on a vraiment cru qu'on était jumeaux, en fait. Au bout du compte, on y a cru.
1971, où est-ce que vous êtes? Qui vient vous voir? Qu'est-ce qui se passe?
1971, c'est quand j'étais à l'Institut Saint-Vincent de Paul. Et je dois avoir une quinzaine d'années. Et on vient me chercher dans ma classe. La police vient me chercher dans ma classe pour m'emmener. Bien qu'étant mineure, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, on m'a laissée partir toute seule avec les policiers. La seule demande des religieuses avait été que, évidemment, je parte dans la voiture et non pas dans le fourgon, qu'il n'y avait aucune raison. Et donc, je me suis retrouvée interrogée par la police ce jour-là. La première chose que j'ai trouvé à leur dire, c'est de leur dire « mais vous n'avez pas le droit de m'interroger sans la présence de mes parents ». Ils m'ont dit qu'ils avaient appelé mon père, et mon père est d'ailleurs arrivé quelques temps après, a fait un énorme scandale. Mais bon, ça n'a... Ils n'ont pas vraiment eu le temps de beaucoup m'interroger, surtout sur des choses que je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient savoir, je ne savais pas ce que mon frère faisait. Il ne me tenait déjà pas au courant, comme par la suite il l'a toujours fait, mais ne me tenait jamais au courant du détail de ce qu'il faisait pour éviter justement ces problèmes.
C'est la première fois que des policiers vous disent « c'est pour votre frère ». Qu'est-ce qui s'était passé ?
Est-ce que c'était sa première arrestation pour le vol de la mobylette ? Enfin, il n'avait pas volé, disait-il. Il l'avait emprunté et il l'avait rapporté. Et la personne à qui cette mobylette avait été prise a décidé que ça ne resterait pas impuni et donc a porté plainte, malgré le fait que mon père soit intervenu pour lui dire « écoutez, ils vous l'ont rapporté, vous inquiétez pas, moi je vais me charger de lui faire comprendre les choses ». Lui qui était militaire et très, très droit.
À quel moment, Pauline, vous vous dites que la vie secrète de Bruno est devenue tellement secrète que vous n'en percevez rien et qu'elle va beaucoup plus loin que vous n'imaginiez?
Il est quand même mal dans ses baskets, hein, on ne peut pas dire le contraire. On se pose des questions. Tu vas faire quoi maintenant? Il me dit, écoute, je vais essayer l'armée. Il rentre à l'armée, ça se passe très bien. Il fait toutes ses classes et il est à deux doigts donc d'entrer dans ce corps d'élite d'officier à l'école de Saint-Mexan. Super bien noté, donc mon père, je n'imaginais pas, ça y est, la faute était oubliée. Et à ce moment-là arrive le procès, le fameux qui traînait depuis un moment. Et c'est là qu'il tombe sur un juge, et je me souviens de cette chose-là, qui est de dire « mais vous ne vous en sortirez pas comme ça, avec vous je vais faire un exemple, maintenant ça commence à bien faire ». Il lui donne de la prison ferme.
Je te présente avec ton nom ?
Oui, c'est Bibi Chotti. Je suis un personnage public, non, je rigole.
Sylvie Picciotti, si on commence ton histoire, est-ce qu'on peut aller aborder un peu la famille, la tienne?
Je suis née en Italie, je suis venue à l'âge de 5 ans en France avec toute ma famille. Donc mon père, il est italien 100% et ma mère, bon, elle avait déjà des origines italiennes, mais bon, c'est une Française. Donc on est venu s'installer à Champigny dans le 94. Et mon père, eh ben, comme il parlait pas mal de langues, tout ça, il est venu travailler dans cette société cadre, tout ça. En sixième, on n'a pas voulu que je reste dans les écoles de Champigny, qui était un peu populaire. On m'a mis à Saint-Michel. Moi, j'ai eu mon bac. Hein. J'ai eu mon bac. À 18 ans, j'ai eu mon bac, mon permis et mon premier appartement. Voilà, je suis partie habiter à Belleville. Je travaillais en même temps que j'allais à la fac, que je sortais beaucoup d'ailleurs tous les soirs. C'était les soirées, en plus c'était beaucoup le hip-hop, tout ce mouvement qui était en train de naître à Paris. Et oui, c'était la différence, des nouvelles personnes que j'avais pas connues dans mon petit monde protégé jusqu'à 18 ans.
Dans toutes ces rencontres, il y avait des hommes?
Bah ouais. Ouais, aussi.
Donc le premier, c'est le père de ton fils.
Que j'ai connu en soirée. Lui, c'est un danseur, graffeur, tout ça. Enfin, dealer aussi. Ouais. Et en 95, j'avais 25 ans. Lui, il en avait 24. On a eu un petit garçon, Nino. Voilà. Et lui, 4 ans après, je crois que c'était en 99, hein, voilà, c'est ça. Il est parti, il s'est fait incarcérer.
Quand je l'ai rencontré la première fois, au début, on n'a pas...
Voilà, vous aviez quel âge ? Vous étiez très jeune.
Ah, la première fois que je l'ai rencontré, oui, j'ai cru que c'était un ambassadeur. J'avais 16 ans, j'étais à l'école de coiffure. Donc oui, j'étais très jeune. Après, je ne l'ai plus vu. Bah, et pour cause, hein, disparition de la circulation. Il était parti sur la côte avec des amis, enfin voilà. Et puis, on s'est perdu de vue. Et quand je l'ai retrouvé par l'intermédiaire d'une amie commune, moi, j'étais mariée, j'avais une petite fille. Et quand je l'ai revu au Baumettes, j'ai dit, c'est lui, il n'a pas changé. Mais au départ, quand il m'a dit, j'ai pris perpète, vous savez, j'ai 20 ans, vous ne vous rendez pas compte, vous dites perpète. D'abord, moi, ce n'était pas du tout mon milieu, la prison, les parloirs. Moi, quand le gendarme est venu pour l'enquête du permis dans mon salon, il s'est dit, c'est pas possible, c'est pas Martine. Je buvais tous les matins le café, que c'était dans un petit village, dans le sud. Il s'est dit, c'est pas elle, qu'est-ce qu'elle vient faire, une demande de parloir. Lui, il s'était déjà renseigné sur l'individu. Il m'a dit, mais t'es folle, quoi, tu sais qui tu vas voir. J'ai dit, oui, j'y vais une fois, c'est pour un permis à l'époque, c'était un permis exceptionnel.
Donc j'y suis allée une fois, puis après, bon, bah après je me suis débrouillée pour y aller tout le temps, quoi. Ça a été vite, vite fait. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'étais au loin de voir ce que c'était. Donc au début, quand il m'a dit j'ai pris perpétuité, je sais pas, je suis ressortie de là, j'étais complètement sonnée. Ouais, j'étais assommée quand même. Hein. En plus, moi j'y vais. J'arrive, je suis en tailleur Chanel. Je croyais que j'allais au cinéma, hein, franchement. Mais là, j'étais la godiche, quoi. D'ailleurs, quand je suis arrivée là-bas, on m'a pris pour une avocate. Donc c'est bien, je vais par la fouille, je passe. Juste, on me fait ouvrir le sac et j'y vais comme ça. Et puis après, on me dit, mais vous allez voir qui? Ben, je dis, El Shenaoui. Et je ne devais pas voir la tête de l'avocat du début. Donc on m'a dit, enfin, mettez-vous sur le côté. On m'a dit, mais vous êtes qui? Ah oui, alors non, c'est pas du tout pareil. Alors là, le ton a changé. On m'a fait ressortir dehors, fais la queue et fais-toi fouiller. Enfin bon, bref. C'était assez. J'étais complètement tétanisée.
Prison, parloir, visite. La première fois que vous revoyez votre frère derrière les barreaux, Pauline.
Alors, c'était au Baumettes. La chose la plus marquante pour moi, c'est même pas tant d'être rentrée dans la prison et ce parloir qui, à l'époque, c'était des parloirs complètement fermés. Hein. On ne pouvait pas se... Il y avait des espèces de vitres en plastique qui étaient toujours abîmées, on se voyait pas bien, on ne s'entendait pas bien. Mais ça m'était égal, en fait, de rentrer dans ce lieu que je voyais, ça sentait mauvais, c'était moche, on entendait des bruits, d'accord. Mais l'obsession pour moi, c'était de le revoir lui, de voir sa tête. Et je savais qu'en voyant son visage, j'allais comprendre comment il était. Mais ce qui m'a le plus surprise et étonnée, voire même amusée, parce qu'on peut aussi s'amuser dans toutes les situations, c'est qu'on a attendu la visite, l'heure de la visite, dans le bar qui est juste en face de la prison des Baumettes, qui s'appelle « Ici, mieux qu'en face ». Mais bon, c'était très difficile, d'autant que mon père avait décidé de ne jamais aller le voir en prison. Pour lui, c'était une catastrophe. Donc c'était très très dur, j'y allais exclusivement avec ma mère. Et mon frère était plus jeune, ma sœur, est-ce qu'elle était déjà... Oui, elle était toute petite. Donc on y allait toutes les deux. J'allais plus pour soutenir ma mère et voir son visage à lui que pour me faire une idée de ce qu'était la prison.
À chaque fois qu'on va à un parloir, on a cette boule au ventre. Il fait toujours froid en prison et même l'été, il fait froid. Parce que quand vous allez dans un parloir, voilà, c'est dans une cabine, dans un couloir, entouré de tous ces murs-là. C'est glacial. Après, c'est tous les échanges, tous les sentiments... Toutes les choses qu'il y a entre les personnes qui... En général, quand j'ai des parloirs, je fais abstraction et je sais que les gens que j'étais voir, on a toujours fait abstraction de tout ce qu'il y avait autour de nous. Enfin, je pense que quand j'allais voir Christophe, en tout cas, il était en week-end avec moi, quoi.
On a sauté des étapes parce que donc t'as un fils avec un homme,
ouais,
qui se retrouve un peu en prison. Combien de temps il se retrouve en prison ?
En 10 ans, on va dire qu'on est resté ensemble. Il a dû bien faire 5-6 ans de prison, mais des 2 ans, en plusieurs fois.
Et à quel moment ton chemin croise celui de Christophe ?
Christophe, c'est un ami du père de mon fils aussi. Je le croisais au quartier. Moi, j'avais un vidéoclub à cette époque-là. Il venait passer au vidéoclub, louer des films.
Il avait une réputation, il avait un style, oui, c'était quoi ?
Ah oui, il avait un style, justement, pas de quartier. Comme j'aime bien dire, c'était... Est-ce que j'ai dit, parce que en 95, quand il s'est fait arrêter Christophe, je suis partie en garde à vue avec eux. Donc on l'a accusé de choses graves. Je leur disais aux flics, c'est pas possible parce que ce garçon-là, ça n'a rien à voir avec les garçons que vous pouvez croiser dans les quartiers. C'est un mec du 18e siècle, quoi. C'est un garçon galant, je sais pas, poli, courtois, qui était vraiment à part dans des dalles de rue de Paname. Ouais, voilà, c'était là, un petit peu, il était atypique.
C'était pas un voyou de Belleville.
Non, pas du tout. C'est un petit garçon, Christophe. Et puis, tout ça, il est parti en prison à 25 ans. C'était un petit garçon.
Non, pour suivre quelqu'un, pour aller... Faut quand même avoir... faut être forte de caractère. Faut quand même être bien équilibré dans sa vie. C'est vrai que c'est difficile. Et quand j'ai vu, après, au bout d'un an, deux ans, tout le... Ça a commencé par le parcours carcéral qu'on me faisait changer. Je prenais rendez-vous, je me prenais des billets de train, j'arrivais, on me disait, on l'a transféré dans la nuit, vous ne le voyez pas, vous avez dépensé de l'argent, vous, émotionnellement, vous êtes contente, vous vous préparez la veille, le lendemain, on vous dit, ben non. Enfin, donc je m'étais dit, je le lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à sa sortie, quoi. Mais c'est vrai, je ne m'attendais pas que ça fasse si long, quand même. Hein. Quand vous allez voir quelqu'un en prison, vous êtes autant emprisonné, hein, parce que tout est conditionné. Moi, je sais que j'ai... au fil du temps, je me conditionnais par rapport à mon boulot, par rapport à mes enfants.
fallait que je m'arrange voilà, pour les faire garder ou par des amis ou par beaucoup, j'ai eu beaucoup de nourrices, d'étudiantes. Enfin, et par rapport à lui, quoi, j'ai déménagé quand même 12, 13 fois, 14 fois. Hein. Parce que quand j'étais, par exemple, sur Paris, on me le descendait à Bordeaux. Quand il était à Bordeaux, on me l'amenait à Grenoble, on me l'amenait à Lille. Enfin, toutes les prisons de France, je les ai toutes faites, quoi. Puis après, bah, les amis, bah, ils vous abandonnent. Hein. Je veux dire, la famille, tout ça, c'est... on met un peu à l'écart. Quand vous avez des mariages, des réunions, des baptêmes, enfin des choses, ah ben non, je suis pas là. Donc, bon, bah, au début, je l'ai caché. Ben non, je suis pas là. On me disait, ah ben t'as trouvé un fiancé. Parce que bon, je me suis divorcée assez vite du père de ma fille. Oui, oui, j'ai trouvé un fiancé. Mais après, on a voulu le connaître, le fiancé, au bout d'un moment. Bah, pourquoi tu nous l'amènes pas? Il est quoi? Il a la lèpre? Il est, enfin, vous voyez, c'est le genre de petite vanne. Et après, quand j'ai annoncé l'histoire qu'il était en prison, alors là, ça a été la douche. Puis je vous dis, je suis pas du tout d'un milieu. Ça a fait un peu désordre, quoi. À part papa qui est allé le voir à Saint-Maur, il a fait une demande de permis. Il m'a dit, si tu l'aimes, c'est que ça doit être quelqu'un de bien. Donc je veux voir, ben, je veux le voir. Et papa, bon, après, il est décédé assez rapidement, mais il a été le voir plusieurs fois, quoi.
Alors, c'est qui Philippe El-Chenaoui, alors, pour le grand public d'abord et pour vous?
Non, c'est un gars normal, mais disons que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas faire. Et sa seule liberté, entre guillemets, c'est qu'il a toujours contesté tout ce qu'on pouvait lui faire qui n'était pas, entre guillemets, la loi, puisqu'il faut respecter la loi, il faut pas si... Notamment les fouilles à corps. Et je ne vous fais pas la description des fouilles. Voilà. Donc il a commencé mi-tard. Il ressortait une journée, on voulait le refouiller, remi-tard. Donc il a été catalogué rouspéteur et le gars qui se laisse pas faire. Après, il a jamais rien eu de... Voilà, c'était un rouspéteur. Donc, alors, c'est quelqu'un qui, en prison, a beaucoup étudié, parce que qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Lui, regarder la télé, c'est pas son truc. C'est un gars qui a tous les diplômes qu'il pouvait passer, il les a passés. Le droit, il le connaît sur le bout des doigts. Donc quand on lui faisait un truc qu'il n'avait pas le droit, il faisait tout de suite une lettre. Et il prenait un avocat et vas-y, je te porte plainte. Et ça, j'ai le droit. Et il leur cassait les pieds jusqu'à obtenir. Donc c'est le genre de personne qu'on n'aime pas. Et donc après, bah, voilà, après quand vous êtes classé DPS...
DPS, c'est quoi?
Détenu particulièrement signalé. Donc bah, après, vous êtes... voilà. Vous êtes, après, il a fait des grèves de la faim, donc ça s'est mal vu. Il tenait tête au directeur, il tenait tête. C'est un gars qui n'a jamais plié. Je l'ai vu en 35 jours de grève de faim, 10 jours de grève de soif. Il est encore debout, il vient en parloir. Hein. Il vient me voir, je ne sais pas comment il fait, mais il est debout, il vient me voir. Et ça, ils n'aiment pas. Un type qui tient tête, non, c'est juste pas possible.
Il est rentré pour quoi, Philippe, en prison?
Philippe, il est rentré pour un pseudo-braquage. Enfin, pas, le braquage a eu lieu en septembre 75. Et là, c'est pareil, il n'y était pas, ça a été prouvé. Et les flics, toutes les preuves qu'il y avait pour innocenter Philippe, ils sont assis dessus, quoi.
Donc, le 8 septembre 75, il braque une banque, ou ouais, on l'accuse d'avoir braqué une banque. Voilà. Et il a fait 38 ans de prison pour ça.
Voilà, entre autres.
Bruno Soulac en prison, et vous dites, rien n'a changé entre nous.
Moi, j'attendais de voir son visage. Et à son visage, je savais que j'allais me rendre compte alors de deux choses qui étaient quand même déjà importantes pour moi à l'époque. C'est comment est-ce qu'il va s'en sortir. Donc, quand j'ai vu son visage et que j'ai vu son regard avec ce petit sourire, parce qu'il avait une chose particulière dans le regard, il avait un très beau sourire déjà, ça changeait complètement son visage quand il souriait, et la manière dont il m'a souri et le regard qu'il m'a fait, je me suis dit à ce moment-là que, allez, ça n'allait pas durer très longtemps, que de toute façon ça n'était qu'un passage, et que nos rêves et nos espoirs, on allait les reprendre après. C'était pas possible, c'était une erreur de parcours. Il a essayé de travailler en sortant de prison, hein. Il a essayé de travailler à la gare, il a essayé de travailler plusieurs fois. Mais c'était un tempérament déjà très passionné par la justice. Et pour lui, là, il s'était passé quelque chose qui n'était pas juste. Il avait commis une erreur qu'il n'en commet pas. Il n'a pas compris qu'à la première erreur, en fait, il ait été si durement sanctionné. Et il m'a dit, tu vois, ça marche pas. Ça va pas, la manière dont ce patron me parle, c'est inacceptable, je sens que je vais pas pouvoir, donc je vais m'engager dans la Légion.
Il est bien intégré, mais à un moment, nouveau coup du sort.
Il avait le droit de sortir de la Légion, mais de rester en Corse. Et puis, bon, évidemment, il n'est pas resté. Il ne nous avait pas vus depuis un moment. Il avait envie de nous voir. Il se dit, bon, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je vais partir 3 jours. Dans 3 jours, je reviens. Même si je fais 8 jours de mi-temps, on vit aussi ça dans la Légion. C'est pas bien grave. J'ai envie de voir ma famille. Il est avec nous pour ce week-end. On est devant la télévision. Et il apprend à la télévision que les légionnaires ont sauté sur Colvézi. Pour lui, c'est une catastrophe. Mon père se rend compte tout de suite de ce qui est en train de se passer. Mon père lui dit « Je vais te raccompagner, ne t'inquiète pas ». Et là, lui dit « Non, c'est hors de question » et il s'en va. Il quitte la maison. Il avait déserté, en fait, pour lui. Réellement, profondément, au fond de lui, il était déserteur. Et il ne pouvait pas assumer de rentrer, de se retrouver tout seul et d'attendre que d'autres, éventuellement, ne rentrent pas de Colvézi parce qu'ils seront morts, peut-être sur place, ce qui a été le cas. Et ça l'a... Il a voulu prendre le temps de réfléchir et il était, pour le coup, réellement déserteur.
Ça faisait 1 an que Patrick il était sorti de prison. Ça faisait 1 an que c'était insupportable, que j'allais super mal. Un jour, j'ai dit, c'est terminé. J'ai pressé ses affaires, j'ai appelé le serrurier, j'ai tout changé. J'ai dit, bah, ça, c'est terminé. Et là, avec Christophe, donc c'était en 2005, je crois, voilà. Comme il avait le droit de téléphoner, il y a des cabines maintenant en prison. Il appelait souvent sa mère, donc elle commençait à me le passer. Après, on a commencé à s'écrire. Et puis, bien vite, en fait, j'ai commencé à aller le voir à la maison, en fait. Il venait de sortir de l'isolement.
Et alors, c'est parloir avec lui?
Bon, on va parler juste pratique, hein, parce que Patrick, il a toujours été en maison d'arrêt. Donc, c'était des parloirs de maison d'arrêt. Après, bon, Christophe, j'ai été le voir, c'était une centrale. Centrale, il te laisse, parce que les mecs se sont battus pour avoir de l'intimité avec leur famille. Déjà, t'as plus d'intimité. Donc, j'arrive au parloir à la maison, donc je pose mes affaires. Donc, c'est le bout du monde, quoi. C'est le bout du monde, c'est super cher, un billet de train pour aller là-bas. Bon, je pars 4 jours. Moi, je suis arrivée là-bas, donc je pose vite mes affaires. Il y avait juste un hôtel en face de la gare. Après, le premier matin, en fait, je savais pas, j'étais perdue, j'avais peur d'arriver. J'ai arrêté un mec et je lui ai dit, ramenez-moi, voilà. Il m'a dit, vous voulez que je vienne vous rechercher après? J'ai dit, non, merci, c'est super gentil, ça va aller. Voilà, mais bon. Parce qu'il faut savoir que les prisons, c'est toujours éloigné, excentré de tout. Donc j'arrive dans cette prison avec les montagnes, enfin je crois que c'est la seule, si peut-être Grenoble, tout ça, il y a des montagnes, mais là c'est une centrale, truc très sécuritaire, avec une belle montagne, le soleil, voilà, c'est les Pyrénées. Et ben je suis partie au parloir, et j'ai vu Christophe arriver. Moi j'avais un petit blouson rouge, je me souviens, moi lui aussi, je crois qu'il s'en souvient quand même. Et il était tout intimidé parce que ça joue les caïds. C'est comme j'ai dit, des gamins, quoi, c'est un gamin, quoi. Et puis voilà, j'ai pris la main à Christophe, je lui ai fait 2 bises et je suis allée lui raconter ma vie. Autant qu'il m'a raconté la sienne, et puis voilà, lui il sortait de trucs durs. Moi-même, je sortais quand même de cette relation avec Patrick qui a été super toxique, voilà. En tant que femme, j'avais tout. J'étais pas ce que je suis là maintenant. Là, j'étais plus une femme. J'étais démolie en tant que femme. Voilà. Et je racontais ma vie. Je crois que ça durait. Voilà. En fait, donc c'était là. Je crois que c'était le matin. Donc on ressort tous les midis. On revient l'après-midi. Comme ça, 4 jours jusque. En fait, voilà. C'est jusque où le dernier parloir. Donc le vendredi, quand je suis sortie, j'étais la seule. Quoi. Les cheveux ébouriffés et tout ça, mais j'étais la seule. J'étais contente d'être la seule. Voilà. Et après, je savais où je m'engageais avec Christophe.
Pauline, Bruno part de la Légion, on va dire, devient déserteur, mais veut construire sa vie.
Oui, il rencontre une femme en partant en vacances. Et lorsqu'il rentre, il la connaît depuis peut-être 5-6 mois et il décide de se marier. Il se marie à Périgueux et il se marie sous son vrai nom, évidemment. Une manière de fronder un petit peu aussi. Ce qui n'est pas le plus grave en fait, parce que le fait qu'il se marie sous son vrai nom, ça n'est pas bien grave. Mais seulement à ce moment-là, il commence à faire les bonnes rencontres, on va dire, pour devenir un marginal. Et il y a une histoire de vol d'argent dans un supermarché, parce que quand on est déserteur, c'est comme quand on est en cavale. On a vraiment besoin de pas mal d'argent. C'est pas une excuse, hein, c'est juste une explication. Il se trouve qu'il fait sa première vraie bêtise, presque en se disant « Bon, de toute façon, ma chance, on ne me la donne pas. Donc maintenant, je vais prendre. Je vais prendre ma chance. » Ils ont fait ce hold-up dans un supermarché et ils ont eu l'intelligence de conserver dans le coffre de la voiture des chèques, enfin bon, des armes. Et lorsqu'il s'est fait arrêter parce qu'on a découvert que Bruno Sulac venait de se marier et que Bruno Sulac, c'était un certain légionnaire déserteur, on est venu l'arrêter simplement parce qu'il était déserteur.
Il n'a jamais fait de prise d'otage de surveillant, mais ça, il lui supprimait un parloir. Il était comme un fou. Hein. De toute façon, il ne le tenait qu'avec ça. Hein. Mais sinon, ouais, toutes les astuces pour lui amener un peu de plaisir. Alors maintenant, je peux le dire. Hein, des petits sandwichs, du chocolat. À l'époque, je n'avais même pas le droit. Un carré de chocolat, il vous supprimait le parloir. Hein. Une barre de Mars, vous n'aviez plus de parloir. Hein. Vous sortiez, lui, partait au metteur, et moi, j'avais suppression de permis pendant... Alors, c'était ma victoire, c'était le petit jeu, quoi. De dire, prenez une barre de chocolat, vous prenez un Mars, mais il ne faut pas qu'il fonde, le Mars. Parce que s'il a fondu, bah, vous êtes dans la merde. Donc ça, c'était, voilà, ça a été pendant des années notre petit truc, lui amener des bonbons, il aime bien les chamallows, lui amener des chamallows, et puis dès que le maton était passé, hop, le temps qu'il fasse l'aller-retour dans le couloir, il mangeait ses 2-3 chamallows. Ouais, des trucs de môme, hein, en fait, hein, des trucs... Mais voilà, c'était notre petit kiff, notre petit truc de dire, ah ben on les a eus, je lui ai amené des bonbons, je lui ai amené des chocolats, je lui ai amené des sandwichs saucisson beurre qu'il adore.
Et vous, qu'est-ce qui vous a amené ? Pendant toutes ces années.
C'est lui en fait. Hein. C'est vrai que je suis redingue de lui. Donc, quand je le voyais en bonne santé, souriant, c'était le bonheur parfait, quoi.
Après, voilà, c'est... Donc ce Philippe-là, vous l'avez épousé en prison aussi en 88.
Ouais, à Fresnes. Lui, il voulait se marier. Donc, comme un accord, j'ai dit allez, on va se marier à Fresnes.
Qui était là ce jour-là ?
L'abbé Pierre. Mais on ne fait rien comme tout le monde. voilà. Donc, c'était sympa. C'était aussi assez frustrant parce que, bon, ils nous ont laissé une heure de parloir. Les témoins sont sortis. Et puis après, on est allé au restaurant à 5. Alors là, c'était un petit peu... Enfin, on a été prendre un pot, on a grignoté comme ça. Mais c'est quand même assez... c'est spécial, quoi.
Mariage en prison, Martine.
Ouais.
Enfant en prison.
Ouais. C'était après, quand j'ai vu que ça durait, et puis que c'était sûr. Enfin, de toute façon, on voulait un enfant, mais ça a été le miracle, hein, parce que c'était pas des situations, surtout à l'époque. Hein. Maintenant, il y a des salles, enfin, ce qu'ils appellent des week-ends, où ils ont des petites maisons dans les centrales, et voilà, vous pouvez passer le week-end avec votre mari, donc ça, c'est plus facile de faire des enfants, mais à l'époque, c'était un peu compliqué, quoi. Dieu merci, c'est... Ça m'a permis, je me suis un petit peu, entre mes deux, mon fils et ma fille, ça m'a équilibré parce que je vous assure, il y avait des soirs, des week-ends, je rentrais du parloir, j'en ai un peu vidé quoi.
Elle est née en 2007 à Lija. J'arrivais pas à faire, j'ai mis 9 mois à la faire, enfin, le temps qu'elle soit dans mon ventre, j'arrivais pas à la faire. On a fait un petit bébé parloir à Lija. On va dire au bout de 2 mois, je vais ramener sa fille. Bon, je ne savais pas comment la prendre dans les bras au début. La première fois, elle était petite. Elle était particulièrement petite, Alija. Donc, les gens au parloir, quand je suis arrivée la première fois, ils pensaient que j'avais un poupon dans les mains. Donc lui, en plus, après, il n'est pas resté à Clairvaux. Il a été expulsé de Clairvaux, je ne sais plus pourquoi. Donc après, il est parti un mois, je crois, au mitard, à l'isolement. Et ensuite... Ouais, ensuite, ils l'ont mis à Saint-Maur. En 2007, ils l'ont mis à l'isolement au D5 à Fleury-Mérogis. Ils venaient au parloir, t'avais les 2-3 surveillants qui sont toujours avec le prisonnier qui est déjà isolé, qui sort de sa... Pour aller au sport, il est tout seul. Pour aller en promenade, qui est donc sur les toits au dernier étage de Fleury avec du grillage, tu sors seul. Voilà. Donc, il est resté là-bas parce qu'en 2007, avant avril, tout ça, il y avait le jugement à Créteil. De Christophe, Cyril et Mounir Pembo Abdella pour le tentative d'évasion de 2001. Voilà, donc ils l'ont laissé pas mal de temps. Et moi, quand il était à côté, là, à Fleury, j'allais le voir 3 fois par semaine, Christophe. Alors, j'avais vraiment plus de vie du tout. C'était... Mais parce qu'à l'isolement, Christophe, c'est pas un prisonnier qui roule sur l'or. Je le ramenais 3 fois par semaine à manger. Donc à l'isolement, t'es pas avec tes copains soutenus, tes potes qui te ramènent un truc qu'ils ont préparé, un gâteau, un plat, tout ça. Il faut savoir que les gamelles en prison, elles sont assez... C'est pas costaud, quoi. Enfin, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est à Fleury, Christophe, il a dit « Non, mais il faut que vous vous donniez plus à manger. Et c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde, justement. » Voilà, bon, et puis c'est dégueulasse. Et puis c'est dégueulasse, voilà. Donc, je venais le nourrir 3 fois par semaine. Si j'avais pu venir plus, je serais venue plus, voilà.
J'avais un magasin à faire tourner, j'avais les charges. Enfin, je pouvais pas m'apesanter sur mon sort, quoi. Je me disais, j'ai mes gosses, ils ont rien demandé. J'aurais payé des études, ils ont été à l'étranger, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et puis moi, fallait que je mange. Et comme j'ai jamais été habituée de vivre comme... je vivais pas dans la rue, donc... voilà quoi. Puis c'est, ça coûte cher hein, de faire les parloirs, les chambres d'hôtel, les trains, les avions, des avocats, même si quelques-uns m'ont offert gracieusement, mais il y en a quand même que j'ai payé chèrement quoi. Puis les mandats, parce qu'en plus, pour la petite histoire, on dit qu'on peut travailler en prison. Alors je tiens à dire aux gens qui vont écouter que rien n'est gratuit, hein, tout se paye. Hein, le papier toilette, ça se paye. La télé se paye. On vous met un frigidaire, mais ça se paye. Et donc il y a les mandats envoyés et les DPS n'ont pas le droit de travailler. Donc Philippe, il a travaillé les 2 dernières années là quand il est en fin de parcours, il a travaillé. Sinon, s'il voulait manger, boire, s'acheter une boîte de petits pois, regarder la télé, avoir un frigo en été quand il fait 60, c'est la location. Bah fallait que j'envoie des mandats. Donc j'ai bossé, j'avais 2 boulots quoi. Je fermais mon salon et le soir j'allais chez un ami qui avait un restaurant et je travaillais de 20h jusqu'à 1h, 2h du matin pour me lever à 5h. Enfin, voilà quoi.
Et Martine.
Oui.
Vous êtes une sainte ?
Non, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Non. Je vous dis, les gens ils font suivant leur conviction, leur caractère, la personne qu'ils ont en face d'eux, parce que ça aurait été quelqu'un de pas bien. Mentalement, je parle. Non, il y a certaines choses que j'aurais pas acceptées. Bon, accusé de braquer une banque, c'est pas bien. Je veux pas dire que c'est bien, mais voilà, c'est pas. Pour moi, ils franchissent pas la ligne blanche ou la ligne rouge, comme vous voulez. Puis moi, je mettais un point d'honneur. Je disais pas parce qu'il est en prison que voilà, je vais lui acheter un jean chez Tati. Enfin, après, chacun fait comme il peut. Mais moi, voilà, je voulais qu'il soit comme s'il était dehors. Puis des réflexions du genre, mais t'es sûr que bah, elle a peut-être quelqu'un dehors. Bah oui, j'avais le temps. Hein. Ah, franchement, j'avais le temps. Moi, mon truc, c'était, j'ai tenu le coup parce que voilà, je rentrais le soir dans ma chambre d'hôtel, je me faisais servir à manger ou je prenais un repas en bas ou j'allais dans un petit resto, pas un truc cher, mais je me vidais la tête. Moi, c'était pas mon truc de dire, allez, je me retrouve avec les filles du parloir et on rediscute de ça. Moi, fallait que je me vide la tête. Et en plus, moi, quand je venais de voir Philippe. J'aime pas parler aux gens. Je supporte pas. Je suis dans mon parloir et je me repasse ce qu'on s'est dit, blablabla. Enfin, et j'aime être seule. Et lui, c'était pareil. Il rentrait de parloir, il s'enfermait en cellule. Les gars, le soir, aussi bien ils allaient jouer aux cartes, ils avaient encore 1 heure. Lui, il arrivait, vous m'enfermez. Il rentrait dans la cellule, il fallait pas qu'on lui casse les pieds. Hein. C'était, bon, quand j'amenais les enfants, il repensait ce que les gosses avaient dit, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait joué. Parce que des fois, on pouvait jouer avec les gamins. Dans certaines prisons, il y avait des jeux. Et il ne voulait personne. Et moi, c'est pareil. Donc, me retrouver dans les associations et que le soir, vous mangez ensemble, faites votre vaisselle. Blablabla. Non, je faisais ma route toute seule. Quoi.
Sylvie, c'était ta vie jusqu'en 2007. Et le 15 février 2009...
Ta-ta-ta. Bon, en fait, on a rentré... des explosifs, une arme qu'on a rangée dans un coin du parloir. Donc en centrale, t'as bien compris, c'est en général tu peux y aller tout le week-end. Donc nous on est arrivés le samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin. Et le dimanche après-midi, je redescends au parloir, Christophe il est énervé. Donc là, à 4h30, il me dit écoute, ça va être maintenant, j'ai pas le choix, c'est maintenant que je m'en vais. C'est même pas dire au revoir ou des trucs comme ça, parce que tout le monde, c'est dire au revoir.
C'est maintenant. Vous êtes au parloir.
Je prends ma fille, je vais m'asseoir et je pleure. Je pleure, voilà. Mais je peux rien faire, je vais attendre. Ok, ça fait du bruit, ça fait peur, mais j'ai pas vraiment eu peur de pour les gens ou pour nous. Je pense que Christophe, il a été assez, enfin, je vais pas dire professionnel, mais il a pas fait n'importe quoi. Voilà. Tout est en poussière, il y a de la poussière, et je suis avec la petite quand même, elle est petite, mais ils m'ont fait sortir en dernier quand même. avec la petite, alors qu'il pouvait quand même... Je savais, moi, que je partais en garde à vue. Je suis pas non plus... Voilà. J'ai toujours été consciente de tous les risques avec Christophe, hein, de tout ce qu'il pouvait... Je pensais quand même m'en sortir, hein. Bon, il a fait qu'il y ait eu des dires qui ont fait que j'étais obligée d'affirmer que j'avais aidé Christophe. Donc, voilà, hein, je suis partie en prison, à Saint-Étienne.
À ce moment-là, je fais de la radio. Et j'annonçais le journal, qui commence en premier titre par Évasion de Bruno Sulac, celui qui ceci, celui qui cela. Et à ce moment-là, évidemment, moi, je deviens livide parce que je réalise qu'il est en train de se passer quelque chose de grave. Et donc, je suis allée voir simplement le patron de la radio pour lui dire, voilà, Bruno Sulac, Pauline Sulac, c'est la même chose. Si ça pose un problème, je peux partir. Mais si ça pose pas de problème et que pour vous, je peux continuer à faire ce que je fais et à être ce que je suis, au-delà de ce que je suis en train de devenir, c'est là que je suis devenue la sœur de Bruno Sulac, j'aimerais que vous me préveniez, hein, quand il se passe quelque chose comme ça, que je ne l'apprenne pas au moment où j'annonce le journal. Quand il s'évadait, on se disait, il n'est plus en prison, donc il ne subit plus ce qu'il subissait, mais en même temps, nous, maintenant, on va subir la peur qu'il lui arrive quelque chose. Et comme il nous tenait au courant de rien, mais que néanmoins il appelait toujours, hein, tous les 2-3 jours, il appelait maman en lui disant « Comment ça va alors? T'es allé faire les courses ?»« Ah ben oui !» Enfin, vraiment comme s'il était parti en voyage et qu'en fait, il nous tenait non pas informé de ce qu'il faisait, mais il se tenait informé de comment allait la famille. Est-ce que Denis avait passé son diplôme? Est-ce que sa petite sœur, ça allait bien? Enfin bon, des choses, j'allais dire, presque banales dans une vie de tous les jours, mais qui prenaient une couleur particulière à ce moment-là, jusqu'au point de venir nous voir par surprise, aller à l'époque, nous habituons à Jouk. Imaginez bien sûr, qu'on était sur écoute au niveau du téléphone et on était surveillés dans les périodes chaudes. Mais il y a toujours un moment, il y a un ventre mou pendant lequel, d'ailleurs, c'est le commissaire Boréas, quelques années après, qui m'a dit le gros problème des écoutes, surtout à cette époque-là, c'est que on enregistre les conversations téléphoniques. Chaque fois qu'il appelait maman, c'était enregistré, mais elles ne sont entendues que 2, voire 3, 4 jours plus tard. Donc même quand il disait « je suis à New York », ce qui était sûrement faux, il était peut-être en France ou au Brésil ou je n'en sais rien, même s'ils avaient voulu réagir, de toute façon, c'était toujours trop tard. Donc il nous disait « ne vous inquiétez pas de ça, ça n'est pas grave ». Et puis à l'époque, quand on était écouté, on entendait un petit clic dans le téléphone et on savait qu'on était écouté. Donc ça finissait par devenir un jeu et après on l'oublie. Hein, c'est comme tout, on oublie ça. Donc il débarquait à la maison. Et là, c'est ce que je disais, la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Il ne parlait jamais de ses casses, bien sûr, il ne parlait jamais de ses amis, entre guillemets, il ne parlait pas de ce qu'il faisait. Il arrivait, et puis presque comme un frère aîné. « Alors Denis, on m'a dit que tu avais réussi ton permis de conduire, c'est super bien et tout ça. Stella, mais tu sais que ce que tu as fait à l'école, c'est fantastique. Et maman, tu peux me faire des crèmes caramel et des tartes au citron. » Alors maman s'affairait à faire des dizaines de crèmes caramel et tartes au citron qu'il adorait et qu'il pouvait manger par quantité incroyable. On faisait un dîner. Maman arrêtait de respirer pendant quelques secondes parce qu'elle se disait « comment je fais ?» Mon père, pendant ce temps-là, allait montrer à Bruno, aujourd'hui je peux le dire, hein, on n'a même plus la maison, donc allait montrer à Bruno un endroit... Derrière, il y avait une cave, c'était une maison qui était construite directement sur la roche, un peu troglodyte. Donc il y avait des caves dans la roche, et il lui montrait l'endroit où il aurait pu aller se cacher pour le cas où la police viendrait. Même si on n'a jamais fait de recel de quoi que ce soit, même si on était au courant de rien, réellement, ils s'en sont rendus compte au fil du temps, malgré tout, on se devait de le protéger, quoi qu'il en soit. Donc notre complicité, elle était là.
On n'a pratiquement jamais vécu ensemble. On a vécu 2 ans ensemble, hein, en Corse. Puis après, je compte pas la cavale, parce que la cavale, ça, c'est encore autre chose. Quand vous êtes en cavale, on est un petit peu sur le qui-vive. Il y a des côtés un peu rigolos. Hein, quand des fois, vous êtes dans Paris, qu'il y a des embouteillages et que c'est les flics qui vous escortent pour sortir, c'est plutôt rigolo. Alors qu'il a un mandat international de recherche. Mais il y a des petits côtés sympas. Mais je veux dire que c'est pas la vie, une cavale. Faut bien se dire que... J'en suis intimement convaincue, puis je peux dire aux gens qui avaient dans leur tête de penser à ça, c'est pas la vie, quoi. C'est stressant, c'est flippant, vous êtes tout le temps en train de... Vous entendez un bruit, enfin vous êtes à l'hôtel, vous êtes ici, vous louez un appartement, vous allez chez des amis, on n'est pas tranquille. Hein. La cavale, c'est bien 3 jours, mais quand ça dure 6 mois, ça devient un petit peu compliqué, surtout que moi, il fallait quand même que je retourne à ma boutique, que je travaille. Je partais par des portes, par les caves, enfin des trucs de malade pour
voilà, pour pas qu'ils me suivent, hein, parce que j'étais quand même un petit peu suivie. C'est pas rigolo, quoi.
Donc, alors, c'est vrai que... la vie, est-ce qu'elle est repartie le 22 janvier 2014 ?
Oui, ah bah oui, oui, de suite. Bah, la journée, vous savez, quand on y repense, il a tellement eu d'embûches, on l'a tellement empêché, il y a tellement eu de si c'est un détenu spécial, sortie spéciale, jusqu'à la dernière minute, d'ailleurs la sortie, je ne sais pas si vous avez vu aux infos, la sortie, on a quand même attendu 2h30, parce qu'il y avait trop de journalistes, ils étaient devant la porte de la prison de Fresnes, et le directeur ne voulait pas ouvrir la porte. Donc, prévu sortie 7h, il est sorti à 9h30, c'est une journaliste qui a fait un peu de gendarme. Il y a un surveillant qui est venu, qui m'a dit, moi, enfin, l'avocat et à moi, ben, il ne sortira pas parce qu'ils sont devant la porte. Donc il faut qu'ils dégagent, au moins de l'allée. Et ça a encore duré, enfin, ils ont appelé en haut lieu à la pénitentiaire pour savoir si on pouvait ouvrir les portes du pénitencier pour laisser sortir Philippe. Et après, on a été, c'est vrai, happé, je ne m'attendais pas. Bon, je savais qu'il allait y avoir quelques journalistes parce que moi, ça fait 30 ans que les journalistes me suivent. J'ai même lié des amitiés avec certaines ou certains. Donc... vous savez, ça s'évite hein, dans le milieu, vous êtes fait pour savoir. Donc tout le monde était là, même des caméras, des télés de l'étranger. Et en fait, on a tout de suite été... Je ne m'attendais pas à une foule pareille. Hein. J'ai même une amie qui m'a dit, j'ai jamais vu ça. Quoi. Il y avait plus de 100 journalistes, des caméramans. Enfin, c'était... ils ont cassé les portes de l'entrée de Fresnes quand même. Hein. Les flics étaient là. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? On tourne un film? Non, c'est le Chenaoui qui sort. Ah non, non, on ne bouge pas, on ne fait rien. Après, si vous voulez, bon, bah, il y avait quelques personnes à la maison, on a bu le champagne, mais c'est pas tellement là, enfin, j'arrivais pas à réaliser, surtout qu'après le soir, on est venu tout de suite lui mettre le bracelet, on lui a même pas laissé le temps d'aller au restaurant, enfin, c'était quand même, c'était assez spécial, j'ai pas tellement savouré le jour même, voilà, si, j'étais contente, mais... j'ai pas trop apprécié. C'est quelques jours après qu'on a réalisé que le matin, quand on a pris le petit déjeuner tous les deux dans l'appart, j'ai dit waouh, il est là quoi.
Tu passes combien de temps en préventif?
4 ans et 3 mois.
Et tu es condamné in fine à combien?
À 5 ans. Les 3 premiers mois, j'ai pas vu mes enfants, même plus. Plus. J'allais super mal, j'allais super mal. Si, les premiers mois, je me suis reposée, j'étais fatiguée quand même. Ma fille, elle avait que 18 mois. Hein. Il y avait eu tout cet accouchement catastrophique, tout ça. Il y avait tout ce qu'il y a eu aussi avant. Tous les parloirs même, tout ça. Tous ces week-ends à partir, les trains, toujours disponibles pour Christophe. J'étais fatiguée. Les premiers mois, je me suis reposée. Mais le manque de mes enfants, il était... je ne pouvais pas regarder des photos de Nino ou d'Alija. Je pleurais. Vers 4 heures, j'écrivais. Je commençais à écrire à tous mes proches, ma mère, mes enfants. Et je vois mon écriture à mes enfants en train de les rassurer, en train de leur dire que leur vie ne change rien, il n'y a rien qui change, que voilà, ils continuent leur vie tranquille, que voilà, mais on s'aime, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, et qu'ils sont très bien, ils sont avec mes parents, donc tout est pour le meilleur du monde. Donc voilà, il n'y a pas à se faire de soucis. Quand ça ne va pas bien, je sais être forte. Donc voilà, et une belle écriture et tout ça. Putain, je me dis, mais j'ai essayé de les rassurer quand même. Et je n'étais pas si bien que ça, parce qu'un mois après, j'ai eu deux kystes dans mon ventre, un petit et un grand, comme si j'ai remis... Parce qu'en prison, tu somatises, je crois, je pense beaucoup, quoi, parce que...
Comme si tu portais à nouveau tes enfants.
Voilà, ouais, je les ai remis dans mon ventre.
Et Sylvie, tu as aidé ton premier compagnon Patrick quand il était en prison. Tu étais allé voir, donc tu es allé au parloir. Ouais. Tu es allé voir Christophe au parloir. Et toi, tout d'un coup, tu passes de l'autre côté. Ouais. Qui vient te voir au parloir?
Déjà ma mère, qui me ramène ma fille, qui me ramène mon fils. Mais voilà, et Catherine, la maman de Christophe. Bon, après, j'ai pas beaucoup de monde qui vient me voir. Surtout quand j'étais dans le sud, dans le sud à Saint-Étienne ou à Valence, où j'étais vraiment seule, où j'avais vraiment pas beaucoup de parloirs. J'avais un parloir tous les mois, si ce n'est pas plus long, quoi. C'était un mois, une semaine, quoi.
Pauline, 18 mars 1985.
Il y a 30 ans, là, ça y est. Donc il y a plus que prescription, on peut dire les choses. On savait qu'il allait s'évader. Il nous dit, voilà, vous allez au Brésil. Quand l'évasion est terminée, je vous rejoins. Donc ma sœur part d'abord, moi je pars ensuite, on se retrouve au Brésil. Il se trouve que le 16 mars, c'est dans la nuit du 16 au 17 mars en fait, qu'il a sauté, si on peut dire, ce que diront certains. Donc c'est l'anniversaire de ma sœur, le 16 mars, elle va avoir 20 ans. On prépare la bouteille de champagne et on se dit, on boira le champagne après minuit, puisque c'est dans la nuit qu'il doit s'évader. Et donc, on n'a pas ouvert la bouteille de champagne. Évidemment, on ne l'a jamais ouverte, cette bouteille. Dans la nuit, on a un coup de fil qui nous annonce qu'il a tenté une évasion et qu'il est dans le coma à l'hôpital. Et on apprend que cette évasion s'est faite avec la complicité d'un gardien et d'un directeur de prison, d'un sous-directeur de la prison de Fleury-Mérogis, donc normalement qui avait toutes les chances de réussir, hein, puisqu'ils avaient les clés, si j'ose dire, les clés des portes, les clés des fenêtres, les clés de tout. Mais la seule clé qu'ils n'avaient peut-être pas, c'est avoir pris la mesure de ce que ce jeune sous-directeur de prison allait vivre en participant à une telle aventure. Beaucoup pensent qu'il a craqué en dernière minute et qu'il a donné Bruno. Lui soutenait que non. Mais bon, peu importe. En tout cas, il est passé par cette fenêtre et il s'en est jamais sorti.
Qu'est-ce qu'il a comme habitude, Philippe El-Shenaoui, votre mari ?
Faut ses repères, quoi. Vous êtes dans une cellule et vous vous retrouvez dans un appartement où vous pouvez vous lever, prendre un café. Vous n'avez pas le drapeau à mettre à la porte pour dire je peux aller faire pipi. Enfin, maintenant il y a les WC dans les cellules, mais vous voyez, c'est donc tout est comme ça. Donc il était un peu, voilà, c'est déstabilisant aussi bien pour lui que pour moi. Il n'osait pas faire de bruit parce qu'il se dit bah elle dort pas, alors que je dormais pas. Mais bon voilà. Donc il y a un petit peu ses habitudes à avoir. Et puis il y a le problème, je vous dis, ce gros problème du bracelet, c'est que vous êtes libre, mais en fait, vous êtes libre dans un appart chez vous. Donc moi, j'ai vu le matin, par exemple un dimanche matin, dire bah, « je viens avec toi au marché bah, ». Il était obligé de rentrer parce qu'il y avait la queue dans, partout. Et il s'est dit bah, « si je paye mon panier de course, je vais être considéré comme évadé ». Donc il repartait à la maison. Donc les premiers mois, c'était pas très sympathique. Il faut vraiment s'aimer très très fort pour dire « on va tenir le coup ».
Est-ce que tu aimes toujours Christophe ?
Aïe, j'ai mal au ventre. C'est trop drôle. Non, je l'aime. Là, peut-être que pour moi, il est mort en 2009, je sais pas. Parce que je sais pas. Mais je lis, enfin, j'arrive plus à penser à Christophe en personne physique, en personne. Voilà. C'est un enterré, un enfermé, un enterré vivant. Il était déjà un peu enterré vivant, mais voilà, je pense que j'avais tout posé ma touche d'espoir. En plus, je peux pas dire ça avec Christophe, c'est un mot qu'il déteste, mais c'est un poison, l'espoir, en prison. Mais voilà, je sais pas, il y avait... Moi, je voulais me sauver de quelque chose, je pense, dans cette histoire, et Christophe, bon, il voulait s'extriquer de ses murs, quoi, c'est tout.
Est-ce que t'as pas ressenti quelque chose quand tu apprends que Christophe se marie avec quelqu'un d'autre que toi, alors que toi, tu es en prison à ce moment-là?
Non, mais nous, on s'écrivait avec Christophe. Hein. On s'écrivait. Je lui ai dit, moi, qu'il faut que tu trouves quelqu'un. Et on avait même des parloirs téléphoniques. Le juge, il nous a... Je crois qu'on était les seuls en France à pouvoir s'appeler de prison en prison. Et c'était tous les mois. Et bah, quand il s'est marié à Clairvaux, il m'a dit, mais c'est tes frères, les mecs, ou quoi, c'est tes frères. En fait, il y a pas mal de gens qui n'ont pas accepté. Mais moi, j'ai accepté. J'ai les parloirs toutes les semaines. Non. Mais moi, je ne voulais plus cette vie-là. Si je l'ai aidé, c'est que je n'en voulais plus de cette vie-là, de toute manière. Maintenant, j'ai besoin de me construire en tant que. Dans cette société, justement. Sa date de sortie avant 2007, c'était 2038, je crois. 2038 sans remise de peine possible, sans confusion possible, étant donné qu'il avait déjà fait des tentatives d'évasion. Après cette histoire-là, de toute manière, et maintenant c'est 2052.
Mais Sylvie, tu mentionnais d'avoir parlé à Christophe quand tu étais en prison. Donc lui était en prison, vous parliez au téléphone. Est-ce qu'à un moment il t'a dit merci pour ce que tu as fait et je suis désolé de ce qui t'est arrivé?
C'est nul ça. J'avais juste besoin, je peux voir son regard quand les rares fois qu'on s'est croisés chez le juge ou tout ça, ça regarde de petit garçon. Voilà, je sais très bien que, bien sûr que, mais juste son regard, juste de pas pouvoir me regarder, je sais que c'est trop dur pour lui. C'est trop dur. Non, mais c'est. Excuse-moi, je suis désolée. Non, je sais pas. Ben non, tu peux pas en plus enfermer avec tes 2052 ans de prison, là. Enfin, jusqu'en 2052, en plus, avoir toute cette culpabilité sur ça. J'étais responsable, moi aussi. Quand on fait les choses, on les fait à deux. Enfin, à deux, des fois plus, on était plus, mais voilà.
Non, mais je sais qu'il me dit merci tous les jours de ce qui s'est passé, je sais ça. Je sais pas s'il pourra un jour remettre les pieds dehors. Vivons.
On ne pouvait pas l'enterrer où on voulait. On était obligé de l'enterrer dans le carré pénitentiaire, déjà rien que le mot, à Thiers. Parce que, et on nous l'a dit très clairement, le détenu appartient à la justice. Donc ce n'est plus notre fils, frère, mari, père. Il appartient à la justice. Je me suis dit que j'aurais le temps de me révolter un peu plus tard. Sur le moment, il fallait vivre ce moment-là, qui était très difficile. Donc, il y avait beaucoup de monde. Il y avait évidemment des policiers, bien entendu, en civil. Il y avait un commissaire, parce qu'il faut savoir que c'est un commissaire qui doit fermer le cercueil avant qu'on le mette en terre. C'est très étrange. Et puis, dans ce cimetière, il y avait cet homme. Un homme grand, mince, habillé tout en noir, avec un chapeau noir, qu'on a vu partir comme une ombre. Il était venu déposer une rose sur le cercueil de Bruno et il est reparti. Et j'ai juste cette image dans un coin de mon œil où je me dis, qu'est-ce que c'est que ce personnage ? J'ai su un peu plus tard que c'était Spaggiari, voilà. Et je l'ai rencontré quelques mois plus tard à sa demande et il m'a dit à quel point il aimait Bruno. Pourtant, ils ne se connaissaient pas du tout, ils ne s'étaient jamais rencontrés, mais qu'il voulait m'assurer de son soutien. Enfin bon, c'était un truc un peu abstrait. Il nous a raconté le casse de Nice. Voilà, toute l'histoire.
J'ai choisi, j'ai assumé. Et puis, j'espère que je vais vivre encore quelques années avec lui bien. C'est pour ça qu'il se dit, je vais vivre. Si j'ai 10 ans à vivre, je vais en profiter. Quoi. C'est vrai qu'on est plutôt en fin de vie. Hein. On n'a pas beaucoup de...
Alors, vous avez quel âge ?
J'ai presque 60 ans, hein.
Mais alors, quand je vous regarde, j'ai l'impression de voir la jeune fille de 16 ans qui a porté son regard sur Philippe un jour dans un bar.
Ouais, vous êtes gentil.
Elle est là, toujours.
Oui, c'est toujours quelque part, entre guillemets, je suis... Voilà. Parce qu'en fait, je faisais mes études de coiffure qui est GMAP. Et à l'époque, on descendait quand on avait une coupure d'une heure. Donc, j'allais manger un café croque-monsieur ou un œuf au plat. Enfin, un petit truc, un encas pour continuer la journée. Et un jour, j'arrive et le bistrotier me dit « Ton café, il est payé avec ton croque-monsieur. » Je regarde, je dis... Alors, comme j'avais un papa à l'époque qui était très italien, sa fille, c'était sa fille. Donc, il avait fait plusieurs fois, il se prenait des petites journées pour venir voir si j'avais pas parlé à un garçon et si vraiment j'allais à l'école de coiffure. Parce que quand j'ai dit que je voulais être coiffeuse, j'ai abandonné mes études. Mon père était pas du tout d'accord. Hein. Donc, bref. Donc, j'ai cru que c'était papa qui avait payé mon café. Et je me retourne, il me dit non, il est parti. C'était un beau jeune homme en costume blanc avec BMW, tout bronzé et tout. Ma foi. Bon, j'ai pris mon croque-monsieur, même si j'avais pas eu envie ce jour-là. Moi, j'avais un croque-monsieur de payer mon café. Et puis, la semaine d'après, le beau jeune homme, j'arrive, donc je descends à une heure. Il était au bord de sa voiture, en train de me regarder. Et voilà, j'ai dit « Waouh !» J'ai dit « Quel beau mec !» J'ai dit « C'est beau, monsieur !» Et il me fait un sourire, je rentre. Et puis, le monsieur du bar, il me dit « Tu vois, c'est lui !» Ah bon, j'ai quand même été lui dire merci, mais... Très, très timide, très... Voilà. Et puis, il a bu un café avec moi. Il a proposé à me ramener. J'ai dit, ah non, j'ai pas le droit de monter dans la voiture d'un monsieur. Mon papa, il veut pas. Il a dû se dire, bon... C'est quoi, cette fille ? Mais il a dit, mais je l'aurai. Voilà. Et on s'est revus quelques fois. Alors, il m'a ramené jusqu'au métro, jusqu'à la station de métro. Et puis, ça n'a pas été plus loin. Il n'y a jamais eu... Il n'y a rien eu, quoi. Et je l'ai revu 2 ans et demi après.
Au Beaumette.
Voilà. C'est la vie. Et en plus, la vie, elle est bizarre parce qu'après, j'ai continué, je me suis mariée, j'ai eu une petite fille. Et en fait, j'avais une amie qui s'est avérée être sa cousine. Et elle, c'est pareil, elle l'avait perdue de vue et puis elle va le voir. Elle prend une photo de moi, on avait passé le premier de l'an ensemble et elle lui montre des photos de copains, enfin, qu'ils avaient eux ensemble. Et lui, tout de suite, il dit « Mais c'est qui la petite blonde, là ?» Voilà. Donc, on est fait pour vivre ensemble. C'est pas possible autrement. Pour vivre ensemble et finir ensemble, même si des fois, il m'énerve un peu. Voilà. Donc, voilà. Non, c'est la boucle est bouclée, quoi, je pense. Hein.
Des femmes, les âmes sœurs. Avec Martine Sauvadet, auteure de « Condamnées à perpétuité », publiée aux éditions J'ai lu, Sylvie Picciotti et Pauline Soulac, auteure de « Bruno Soulac, l'ami public numéro 1 », publié aux éditions Carrère. Remerciements à Philippe Génada, auteur du roman intitulé « Soulac », publié aux éditions Julliard. Sur les docs, attachés de production Christine Bernard et Alison Sinard, documentation musicale Antoine Vuillose, mixage Éric Boisset, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarez.